France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Hier, des manifestations à Londres, en Australie, à Paris, un homme noir abattu par un policier à Atlanta. Le meurtre par asphyxie de George Floyd à Minneapolis a soulevé une vague de protestations mondiales, mis le doigt sur des violences policières et le racisme. Et le monde du théâtre musical se sent aujourd'hui concerné. La comédie musicale à Hollywood et à Broadway a été le lieu où les artistes noirs ont souvent été brimés, moqués, pillés de leur héritage culturel, cantonnés dans des stéréotypes ou tout simplement écartés. À l'époque de la ségrégation, les studios hollywoodiens coupaient les séquences de films avec des acteurs noirs pour pouvoir projeter ces films dans les états anciennement esclavagistes du Sud. George Gershwin a dû se battre en 1935 pour imposer dans son Porgy and Bess des acteurs noirs. Je vous propose aujourd'hui, sur la 42e rue de France Musique, d'explorer les facettes de ce racisme avéré dans un genre populaire dont nombre d'artistes de Duke Ellington à Lena Horne ont témoigné. Il faut dire que les États-Unis ont connu dès sa fondation, dès leur fondation, une forme de divertissement populaire très raciste, le blackface. C'était des acteurs blancs qui se grimaient le visage de noir et pastichaient les Afro-Américains en s'en moquant. Avec des spectacles intitulés Minstrel Show, des hommes blancs grimés de noir autour d'un maître de cérémonie qui jouait des sketchs et chantait. Spike Lee a consacré tout un film à cette forme, c'était Bamboozled. Mais les auteurs de Cabaret de Chicago, John Kender et Fred Ebb, ont aussi utilisé cette forme dans leur comédie musicale, les Scottsboro Boys, en la faisant jouer par des acteurs noirs. Alors pour raconter quoi? Eh bien justement, un fait divers raciste aux États-Unis en 1931. L'histoire de 9 hommes noirs dans le Sud, accusés injustement d'avoir violé une femme dans un train de marchandises, dont 8 sont condamnés à mort. Utiliser la forme du minstrel show pour raconter cette histoire est saisissant, cynique. En particulier lorsqu'en prison, les jeunes imaginent la chaise électrique qui les attend.
An electric chair. If on that chair you put your ear, your hair frizzes out and your eyes disappear. It's a natural fact, I hear. Not every state's got one of those. It can deep fry your skin, it can curl up your toes. It's a natural fact, God knows. Juice runs through you and you start to shake. It's a kind of tap dance, but you ain't awake. Just to hear that sizzling sound, people come from miles around. Mom and dad get crammed inside while the sunny boys electrify. It's so shocking, I declare, can't duplicate it anywhere. Glory be to our electric chair. Dance! I said dance! We'll be right back.
It's not every guy gets to light up the sky. What a fabulous way, a fabulous way to die.
And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fair. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange and bitter
Les arbres dans le sud portent des fruits étranges, du sang sur les feuilles, du sang sur leurs racines, des corps noirs se balancent dans la brise du sud. Ces fruits étranges, pendus aux peupliers, ces corps lynchés dans le sud des États-Unis, sont chantés par Billie Holiday en 1939 pour la première fois au Café Society dans Greenwich Village, un petit club de jazz où les noirs étaient bienvenus dans le public. Elle était ici en concert en 1945. En voici une autre chanson créée à Broadway qui raconte ces lynchages, signée Irving Berlin dans As Thousand Cheer en 1933. C'est une revue qui se regardait comme on tourne les pages d'un journal, avec une rubrique sport, une rubrique politique et puis une rubrique faits divers. La chanson s'intitule Supper Time et sur scène on voit une jeune femme qui chante qu'il est l'heure du dîner mais que son mari ne viendra pas. Il s'est fait lyncher. S.L. Waters.
Soon be yelling for their supper
time. How'll I keep from telling them that man of mine ain't coming home no more? How'll I keep explaining when they ask me where he's gone? How'll I keep from crying when I'll bring day supper on? How can I remind them to pray at their humble board? How can I be thankful when they start to thank the Lord?
Are red, violets are blue, tulips are for kissing, and here's one for you. But what color is virtue? What color is love? Give me a hint as to what tint makes one compatible. What protective hue keeps me and you so can't get outable? What has color got to do with behavior or when under fire? How brave you are! What color is virtue? And what color is love? What tint makes one compatible? What protective hue keeps me and you so can't get at all? What has color got to do with behavior falling under fire? How brave you are! What color is virtue? And what color is love? What color is virtue?
What color is love?
De quelle couleur est la vertu? Une question posée par Duke Ellington dans le final de son spectacle qu'il chérit le plus en 1963, My People. C'était Joy Asheril, les Irving Button Singers et l'orchestre de Duke Ellington. Ce spectacle, My People, Duke Ellington l'avait créé à l'occasion d'une exposition à Chicago qui célébrait en 1963 le centenaire de la proclamation d'émancipation de la population afro-américaine. Il l'avait conçu, Duke Ellington, comme un spectacle en deux parties. À la fois, il examinait l'aspect spirituel de la vie afro-américaine et puis il voulait refléter aussi leur vie quotidienne des afro-américains, l'amour, le travail, une œuvre qu'il avait dédiée à Martin Luther King. Parce que tout au long de sa carrière, le Duke s'est battu pour l'égalité des droits des Noirs aux États-Unis. Par exemple, au tout début de sa carrière, il va forcer le Cotton Club, interdit au public noir, à permettre à sa mère d'assister à son spectacle. Le théâtre, en fait, était pour Duke Ellington une façon de véhiculer ses idées politiques alors que la ségrégation raciale faisait rage aux États-Unis. Et il écrira des comédies musicales toujours politiques et sociales. Une s'intitule Jump for You, ça raconte l'histoire de la musique. C'est en 1941 qu'il l'écrit. Et pour lui, explique-t-il, cette comédie musicale enverra aux oubliettes, je cite, Oncle Tom, et éliminera l'image stéréotypée des Noirs qui est exploitée par Broadway et Hollywood. Duke Ellington qui va aussi adapter l'opéra de Katsu sur un thème biracial. Et puis, un an plus tard, en 1964, c'est sensationnel, on va parler de Malcolm X à Broadway. Malcolm X, l'autre leader du mouvement afro-américain pour abolir les discriminations raciales. Alors ça, c'est dans une comédie musicale audacieuse intitulée Golden Boy, inspirée d'une pièce de théâtre. Le héros initial, c'était un boxeur italien, pauvre, fils d'immigrant, qui cherche le succès et perd son âme et sa vie. Le producteur choisit comme tête d'affiche pour cette adaptation en comédie musicale Sammy Davis Jr. Et du coup, va modifier le propos de l'œuvre. Les chansons vont refléter la lutte d'un homme noir ambitieux en Amérique et ses difficultés. Lorsqu'il rentre après une victoire chez lui à Harlem, ses voisins vont lui demander de ne pas oublier la 127e rue, ses maisons de Harlem et les mots apaisants de Malcolm X. Voici Johnny Brown, Sammy Davis Jr. et la troupe de Golden Boy.
And when you're downtown sipping champagne with your high-class white friends, don't forget this glorious environment which molded your character. Don't forget your roots. Don't forget 127th Street. Don't forget your happy Harlem home. Don't forget 127th Street. No siree, there's no slum like your own. I remember winter evenings at that window, watching those evictions in the snow. Oh, no joke, don't forget 127th Street. A little bit of heaven wherever you may go. Don't forget the cultural life on this here street,
richer than the outside world suspects.
Hark the cheerful patter of all those junkies' feet and the soothing tones of Malcolm X. Each night we hasten to our spotless subway. Riding home is always such a treat. Oh, no joke, don't forget
my beautiful old ancestral home.
An angel named it home.
4127th Street.
Now that I've seen you dance, I am firmly convinced we ain't all born with it. Our dandy little ghetto,
whatever you may do.
Don't forget 127th Street.
Do.
Here you were born and raised and fed.
Even as a baby, you always smiled so sweet.
And the falling plaster hit my head. Sure, when I'm driving in my big Ferrari with some luscious rich chick as my pet, believe me, how I'll miss this beautiful 27th Street. Ladies and gentlemen, I assure you, I'll miss it every chance I get.
Oh,
don't forget our glorious PS42 with the 90 kids in every class. Radiators full of ice all winter through. Man, oh man, you really freeze your...
H is for the heroin they sell here.
A is for the alleys where kids play.
R is for the rats that run pell-mell here.
And L is for the landlords far away.
E is for the endless cleanup projects.
And M is for the moldy roofs above.
Put them all together, they spell Harlem. Oh, yeah.
You nitwit. The place that white folks think we love. What's the name of that street?
127
Sing a little louder.
127
Little more so now.
127
Lassie, we got rats as big as Lassie.
7th Street, we'll never forget.
Keep your mink and ermine, we've got 50 kinds of vermin.
7th Street, we'll never forget.
Hey, we got a right to howl, we got Adam Clayton Powell.
7th Street, we'll never forget.
Oh, yeah.
Yeah.
when he
goes away. That's a rainy day. But when he comes back, that day is fine. The sun will shine. He can come home.
Pas facile de percer en tant qu'acteur noir sur scène ou à l'écran aux États-Unis. Prenez celle qu'on vient d'entendre, Lena Horne, première actrice noire à décrocher un contrat à Hollywood. Elle chantait à l'instant « Can't Help Loving That Man », extrait de Showboat dans le film « Till the Clouds Roll By », un film qui racontait la vie du compositeur Jérôme Kern. Mais on va lui refuser le rôle du personnage de Julie Laverne, qui interprète cette chanson lorsqu'on tourne une nouvelle adaptation de Showboat de Jérôme Kern à la Metro-Goldwyn-Mayer dans les années 50. On va lui préférer Ava Gardner, parce qu'à l'époque, les amours interraciaux sont interdits au cinéma. Et peu d'acteurs noirs vont arriver à percer le plafond de verre du star système blanc. Lena Horne va s'engager d'ailleurs pour faire changer les choses dans les grands studios face au racisme. Et après-guerre, elle rejoint le mouvement antiracial et se marie même à un blanc, ce qui est formellement illégal aux États-Unis à l'époque. Elle se mariera en France.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Showboat en 1926. De Jérôme Kern, c'est un moment important dans l'histoire de la représentation du peuple noir sur scène aux États-Unis, parce que pour une fois, on sort des portraits de noirs naïfs et gentils au temps de l'esclavage. Non, Showboat s'ouvre dans un champ de coton, un champ de coton sur un homme noir qui chante la difficulté de son travail et la chaleur accablante. Il va y avoir d'autres œuvres plus réalistes avec des acteurs noirs à Broadway, comme Porgy and Bess, à la distribution entièrement noire. Et là, on est même dans l'excès inverse, hein, parce que l'histoire mêle trafic de drogue, sexe et divers crimes. Et puis, nouveau changement, en 1947 à Broadway, pour la première fois, on voit sur scène des chœurs où se mélangent hommes noirs et blancs. C'est dans une comédie musicale intitulée Finian's Rainbow, un conte de fées dans une ville américaine imaginaire de l'Amérique profonde dénommée Missituckee, avec des paysans noirs exploités, un shérif et un sénateur blanc raciste qui, par un coup du sort, devient noir. Alors il ne sera dès lors plus protégé par le shérif et il a droit à son grand numéro avec de jazz, avec des chanteurs de gospel, un numéro intitulé The Begat.
The Lord made Adam, the Lord made Eve, he made them both a little bit naive. They lived as free as the summer breeze, without pajamas and without chemise. Until they stumbled on the apple trees. Then she looked at him, and he looked at her, and they knew immediately what the world was for. He said, give me my cane. He said, give me my hat. The time has come to begin the begat.
The begat? The begat!
So they begat Cain and they begat Abel, who begat the rabble at the Tower of Babel.
They begat the Coens
and they begat O'Rourke.
And they begat the people who believed in storks.
Lordy, lordy!
How they did begat!
How they begat!
When the begat got to getting under par,
they begat the daughters of the D.A.R.
They begat the babbits of the bourgeoisie,
who begat the misbegotten G.O.P.
It was pleasing to Jezebel, pleasing to Ruth.
It pleased the League of Women Shoppers in Duluth.
Though the movie censors tried the facts to hide, the moviegoers up and multiplied.
Lordy, lordy,
how they multiplied.
How they multiplied.
How they multiplied.
Soon it swept the world.
Soon it swept the world.
Every land and lingo.
Every land and lingo.
It became the rage.
It became the rage.
It was bigger than bingo.
The white begat, the red begat, the folks who should have stood in bed begat. The Greeks begat, the Swedes begat.
Why, even Britishers in tweeds begat.
And lordy, lordy, what their seeds begat.
The Laps and Lithuanians,
a begat.
Scranton, Pennsylvanians,
a begat.
Strict vegetarians,
a begat.
Honorary Aryans,
a begat. Starting from Genesis, they begat. Heroes and menaces, begat. Fat filibusterers, begat. Income tax adjusterers, begat. T'was natural and natural to begat. And sometimes a bachelor, he begat. It didn't matter which ways, they begat. Sons of habitués,
begat.
En 1994, une autre révolution se produit. C'est le début du color blind casting, en bon français, le casting sans se soucier de la couleur de peau du personnage. Par exemple, une actrice noire peut incarner une américaine à Broadway dans un classique de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, Carousel. Un personnage jusque-là toujours incarné par des acteurs blancs. C'est Audra McDonald, elle incarnera Carrie Pipridge. Il y a 3 ans, nous l'avions rencontrée, Audra McDonald, à New York, et nous lui avions demandé si le fait d'être noire, afro-américaine, avait causé des difficultés dans sa carrière.
Ah oui, bien sûr.
Mais en même temps, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. En effet, dans bien des cas, les metteurs en scène et les producteurs ont décidé de prendre un risque et de m'embaucher. Ils m'ont choisi pour tenir des rôles qui, typiquement, étaient tenus par des femmes blanches. Carrie Pipridge, par exemple, ou alors Mother Abbess dans La Mélodie du Bonheur. Ça, c'était sur NBC. Et j'ai joué Miss Grace Farrell dans Annie. Ça, c'était sur ABC avec Kathy Bates et Christine Chenoweth il y a des années. Vous voyez, ça, c'est des rôles qui étaient typiquement tenus par des femmes blanches. Alors que les metteurs en scène et les producteurs ont pris le risque de m'embaucher. Et ça a bien marché, bien que ça ait laissé quelques personnes interloquées, mais bon, je dois dire que j'ai eu pas mal de chance parce que ça a bien marché.
Mais jusque-là, est-ce que cela avait été un problème pour vous ?
Au lycée, il y a plein de rôles que je voulais tenir. Moi, je voulais jouer le rôle d'un des enfants dans La Mélodie du Bonheur. Tout allait bien, sauf la couleur de ma peau. Et j'ai fait un casting pour Les Misérables. Et on m'a dit non. Moi, je voulais jouer Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Et on m'a dit, mais vous êtes noir, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, les gens ont l'esprit plus ouvert. Mais au début de ma carrière, j'ai quand même eu des difficultés.
His name is Mr. Snow. And an upstanding man is he. He comes home every night in his round bottom boat with a net full of herring from the sea. An almost perfect beau, as refined as a girl could wish. But he spends so much time in his round bottom boat that he can't seem to lose the smell of fish. The first time he kissed me, the whiff of his clothes knocked me flat on the floor of the room. But now that I love him, my heart's in my nose, and fish is my favorite perfume. Last night he spoke quite low, and a fair-spoken man is he. And he said, Miss Pipridge, I'd like it fine if I could be wed with a wife. And indeed, Miss Pipridge, if you'll be mine, I'll be yours. is for the rest of my life. Next moment we were promised, and now my mind's in a maze, for all it can do is look forward to that wonderful day of days. When I marry Mr. Snow, the flowers will be buzzing with the hum of bees, the birds will make a racket in the churchyard trees. When I marry Mr. Snow, then it's off to home we'll go, and both of us will look a little dreamy-eyed, a driving to a cottage by the ocean side, salty breezes blow. He'll carry me across the threshold, and I'll be as meek as a lamb. Then he'll set me on my feet, and I'll say kind of sweet, "Well, Mr. Snow, here I am." Then I'll kiss him so then I'll be as right can be, a living in a cottage by the sea with me.
Audra McDonald, Mr. Snow. Cette pratique du color blind casting, le casting, quelle que soit la couleur de peau, est devenue plus courante à Broadway. Elle a connu son apothéose il y a 8 ans avec la comédie musicale Hamilton. Parce que pour raconter l'histoire de la fondation des États-Unis, son auteur, Lin-Manuel Miranda, a voulu exprimer sur scène le fait que le pays était un creuset fondé par des hommes qui étaient tous des immigrés. Et du coup, sur scène, chaque personnage, même Lafayette, était interprété par un homme de couleur. Et l'effet est saisissant. Alors, il y a aussi une comédie musicale à Broadway qui a raconté la ségrégation aux États-Unis. C'est Hairspray, adapté d'un film de John Waters. On se rappelle du film, ça se passe à Baltimore. Années 60, à la télé, il y a une émission populaire de danse qui est réservée une fois par mois aux Noirs. L'héroïne est une jeune fille blanche qui veut casser ses barrières et aime traîner dans les magasins de disques que fréquentent les Noirs. Et puis, il y a ce moment où une mère noire résume le chemin qu'elle a parcouru, les difficultés qu'elle a rencontrées, un titre intitulé « I know where I've been ».
There's a light in the darkness, though the night is black as my skin. There's a light burning bright, showing me the way. But I know where I've been. There's a cry in the distance. It's a voice that comes from deep within. There's a cry asking why. I pray the answer's up ahead, 'cause I know where I've been. There's a road we've been traveling, lost so many on the way. struggle we have yet to win. And there's pride in my heart, 'cause I know where I'm going. Yes, I do.
Broadway, la question de la difficulté des artistes noirs a émergé, le racisme qu'ils rencontrent parfois dans le milieu lors de castings, de répétitions, de tournages reste brûlante. Alors certes, certains spectacles, comme le Roi Lion, se veulent exemplaires sur la façon de représenter avec justesse l'Afrique grâce à la mise en scène honnête de Julie Taymor, mais plus de 300 artistes du théâtre à New York ont signé cette semaine une lettre ouverte à ce qu'ils appellent l'industrie blanche du théâtre, expliquant, je cite, que le théâtre est un château de cartes construit sur la suprématie et fragilité blanche. D'ailleurs, le 19 juin se dérouleront les premiers Antonio Awards, organisés par l'association Broadway Black, qui souhaite célébrer la communauté noire à Broadway et off-Broadway. Un événement avec notamment Audra McDonald, qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, on est vraiment dans une démarche communautaire propre aux États-Unis. En France, on se souvient de l'intervention de Aïssa Maïga lors de la dernière soirée des Césars, très enflammée, très engagée. On se souvient de la prise de parole cette semaine de Omar Sy récemment sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi le travail du metteur en scène, auteur, chanteur, comédien David Lescot. Il a créé cette saison un spectacle musical pour la comédienne Ludmila Dabo autour de la carrière et des combats de la chanteuse Nina Simone. C'est quasiment un one-woman show où l'héroïne racontait tout ce qu'elle avait enduré en tant que femme noire. Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, qui aurait voulu devenir concertiste classique, mais elle était noire et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Voici un extrait de ce spectacle capté par nos amis de France Culture, à la guitare David Lescot.
Elle a cette amie, Lorraine Hansberry, qui écrit du théâtre. La première dramaturge noire qui ait eu du succès à Broadway. Lorraine lui fait son éducation politique. Quand elle se voit, elle parle pas de cul ou de fringues. Elle parle de Marx et de Lénine. Le 12 avril 1963, elle donne un concert à Chicago. Au même moment, Martin Luther King est arrêté avec d'autres manifestants à Birmingham, en Alabama. Alors Lorraine l'appelle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est ça ton engagement ? Pendant qu'on met les leaders du mouvement en prison, toi tu fais des concerts ?» Le 12 juin de la même année, Medgar Evers, l'un des dirigeants de la NAACP, l'Association Nationale pour le Progrès des Gens de Couleur, est abattu devant chez lui, à Jackson, dans le Mississippi. Le 15 septembre, encore la même année, un attentat à la dynamite tue 4 fillettes noires devant l'église baptiste de la 16e rue, encore à Birmingham, Alabama.
Andy la retrouve dans le garage en train d'assembler des morceaux de ferraille. Il comprend qu'elle essaye de bricoler un flingue artisanal.
Qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux tuer quelqu'un ou quoi ?
Oui.
Qui ?
N'importe qui.
Mais t'y connais rien aux armes. Ton arme, c'est la musique.
Andy lui sert cette formule bateau uniquement pour la calmer. En réalité, lui qui est maintenant devenu son manager, il voit d'un très mauvais œil qu'elle mette du militantisme dans sa musique. Pour lui, ça complique tout et c'est juste un manque à gagner. N'empêche qu'elle se met au piano, toujours dans le même état de rage, et qu'au bout d'une heure, elle ressort avec ça.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn.
Jusqu'ici, écrire des paroles engagées, ça lui paraissait pas à la hauteur. Quelqu'un tombe pour une cause et qu'est-ce qu'il en reste ? Une mélodie simplette et quelques rimes toujours indignes du combat et des êtres qui les ont inspirés.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn.
La chanson sort en 45 tours. et rencontre un certain succès. Sauf dans le sud, où elle est interdite. À cause du titre « Goddamn ». On n'a pas le droit de dire « Goddamn » dans le sud. On n'a pas le droit de dire « Nom de Dieu » dans le sud.
Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer.
L'Alabama m'a mise dans tous mes états. Le Tennessee me fait me relever la nuit. Et tout le monde sait pour le Mississippi, nom de Dieu. Des chiens de chasse à mes trousses. Des enfants sous les verrous. Un chat noir sur ma route, comme si chaque jour était mon dernier jour. Elle la chante au Carnegie Hall en 1964. C'est quelque chose, vous savez, de s'adresser au public blanc, upper class du Carnegie Hall, et de lui dire « Mais ce pays tout entier est rempli de mensonges. Vous allez tous crever et tomber comme des mouches. Maintenant, je ne vous crois plus. Non, je ne vous crois plus. » Comme dit James Baldwin, son ami Jimmy Baldwin, le seul cas où l'on admire la non-violence, c'est quand elle est pratiquée par les Noirs. Elle chante encore Mississippi Goddamn en mars 65 lors de la marche pour les droits civiques. Comme on n'a rien pour monter une scène, on se fait prêter des cercueils par les pompes funèbres locales. On les empile et voilà, ça fait un podium. Ce jour-là, on la présente à Martin Luther King et elle lui dit « Vous savez, je suis pas non-violente, moi. » Et il lui répond
« C'est pas grave, ma sœur. »
Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Selma made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn.
1967. 5 jours d'émeute à Détroit, 43 manifestants tués. Sur scène, elle dit
« Bravo Détroit, bravo pour ce que tu as fait, je t'aime pour ce que tu as fait, Détroit !»
Mais dans le même temps, il faut aussi aller jouer à Las Vegas, au milieu des flambeurs et des putes, dans un état où règne encore la ségrégation. 5 jours au César Palace, c'est ça la vie d'artiste.
Picket line, schoolboy cops, ils disent que c'est un complot communiste. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me.
4 avril 1968, assassinat de Martin Luther King. Des soulèvements à Chicago, à Washington, à Baltimore.
But that's just the trouble.
Oh, it's slow.
Laver les carreaux.
Oh, it's slow.
Ramasser le coton.
Oh, it's slow.
They're just plain rotten.
Oh, it's slow.
Best to finish.
Do it slow.
The thinking's crazy.
Do it slow.
What am I doing? What am I doing? I don't know. I don't know.
Mississippi Goddamn, écrit par Nina Simone et interprété dans son spectacle par Ludmila Dabo et David Lescaut. Un spectacle intitulé Portrait de Ludmila en Nina Simone que vous pouvez écouter en intégralité sur le site de France Culture. On vous a mis le lien sur la page de 42e rue sur francemusique.fr.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Chaque semaine, vous le savez, depuis le confinement, nous refermons notre 42e rue en prenant des nouvelles des acteurs du théâtre musical. Allô, Jean Lacornerie ?
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, direction Lyon. Vous êtes directeur du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, une structure publique qui présente à la fois du théâtre, des concerts, de la comédie musicale. Tout récemment, The Pajama Game, dont la tournée a dû s'arrêter en plein milieu. Vous préparez votre 10e et dernière saison. Mais je voulais juste savoir, voilà, vous attendez, j'imagine, ce soir la déclaration du président de la République. Comment vous, vous voyez la reprise des activités de votre théâtre ?
Eh ben, effectivement, la grosse difficulté qu'on a tous eue quand on dirige un théâtre, c'était de prévoir ce qu'on allait pouvoir faire. Donc on s'est fait un scénario qui va peut-être marcher, j'espère. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on a réorganisé, on avait déjà prévu toute notre saison quand il a fallu s'arrêter. Et en fait, on a tout simplement réorganisé les spectacles pour faire ceux qui on pouvait... commencer par ceux qui pouvaient être faits en petite jauge. Donc on va commencer très doucement, je pense que ce sera très agréable pour le public.
Ça veut dire quoi comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc ça sera dans la grande salle du Théâtre de la Croix-Rousse, mais vous avez déjà anticipé le fait que peut-être tous les sièges ne pourraient pas être occupés, c'est ça?
Oui, mais même d'une certaine façon, on s'est dit que ça serait bien de commencer pas très nombreux. Donc on s'est dit, voilà, on faisait des spectacles qui sont intimes et où les spectateurs et les acteurs sont l'un en face de l'autre. On va commencer avec Jacques Verzier qui fera la création qu'il n'a pas pu faire sur Jeanne Moreau. Et puis ça continuera tout le mois d'octobre avec des rendez-vous comme cela. Et puis on a pensé que progressivement, on pourrait augmenter la jauge et faire des spectacles plus importants aussi au niveau du plateau. Donc c'est une rentrée en douceur.
Donc ça veut dire que là, le théâtre reste fermé jusqu'à la fin de la saison, c'est ça? Et que vous envisagez de commencer à répéter à partir de cet été?
Oui, enfin pour nous plutôt de septembre. Mais le théâtre n'est pas fermé non plus, enfin à l'activité, parce que notre gros travail en ce moment, c'est que on a annulé 51 représentations et c'est de rembourser en fait nos spectateurs, ce qui est un travail qu'on n'a jamais fait. Et je dois dire que c'est assez merveilleux parce que beaucoup de nos spectateurs, plus du tiers en fait, nous font don de leur place. Et ça me touche beaucoup parce que ça montre que finalement un théâtre comme le nôtre, on n'est pas seulement dans une relation marchande avec les spectateurs et qu'il y a une confiance, il y a un besoin peut-être réciproque et je crois que c'est très important. Parce que nous aussi, nous avons essayé d'être solidaires avec les artistes puisque on est des techniciens, on a payé tous les spectacles qu'on n'a pas pu jouer. Et là, ce geste des spectateurs vient nous aider à le faire.
Alors vous travaillez souvent la main dans la main avec l'Opéra de Lyon. Est-ce que ça va continuer pour la saison prochaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça, par exemple?
Oui, alors on prépare une comédie musicale, Laurent.
Ça tombe bien.
Qui s'appelle The Music Man, avec les forces de l'Opéra de Lyon, l'orchestre, la maîtrise de l'Opéra de Lyon, des solistes et beaucoup d'amateurs. C'est un projet qu'on appelle participatif, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes amateurs vont pouvoir se mélanger avec les professionnels. Et c'est justement ce qu'on va commencer à faire dès l'été. En fait, on va organiser des stages pour des adolescents, en fait, qui vont être recrutés comme danseurs et qui ensuite viendront jouer, c'est au mois de décembre, cette comédie musicale.
Merci Jean Lacornerie. Alors, juste pour terminer, pour reprendre la thématique de l'émission d'aujourd'hui, la question raciale dans la comédie musicale, il y a une œuvre, il y a un film qui vous ont marqué sur ce thème?
Vous savez que je suis un grand fan de Kurt Weill. Et Kurt Weill a écrit Lost in the Stars, qui est une très belle œuvre, très belle, très forte. J'ai eu l'occasion de monter à Londres avec Scott Stroman au Highbury Opera. Et justement, d'ailleurs, avec beaucoup d'amateurs aussi. Et c'est une œuvre qui se passe en fait... qui est adapté de Cry Beloved Country de Alan Paton, qui se passe en Afrique du Sud. Et il y a une très belle air qui s'appelle This is Fear, où il y a eu un meurtre, en fait, un noir a tué un blanc, les blancs ont très peur, ils crient leur peur, et les noirs répondent qu'eux, ils connaissent la peur, toujours. Ils ont toujours peur d'être de la répression policière, et que ce que les blancs n'ont pas pu leur prendre, c'est justement ça, la peur, et ils partagent cette chose-là dans un double cœur qui est assez étonnant, et je crois qu'il est très fort.
Merci Jean Lacornerie, on va l'écouter tout de suite, cet extrait que vous avez choisi, This is Fear. À très bientôt.
À bientôt.
Streets are full of evil. I'm afraid.
It's all right. Take my arm. This is a shabby neighborhood.
Hush!
It's fair. It's fair. It's fair. It's fair.
Oh, can't enjoy the law. of the land of 70 years. The sun that was down on the earth when there is fear at the heart.
Fear, extrait de Lost in the Stars, composé par Kurt Weill en 1949, le choix de Jean Lacornerie, dont le Théâtre de la Croix-Rousse présentera sa saison mardi prochain sur la page de 42e rue. Vous retrouverez la programmation musicale de l'émission, quelques vidéos aussi. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de 42e rue, c'est gratuit, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est là pour vous suivre. Et vous pouvez nous suivre aussi, on se retrouve dimanche prochain pour la fête de la musique. Figurez-vous qu'on a envie de passer une heure avec celui qui fut notre rayon de soleil durant le confinement, le prof de claquettes, Victor Cuno. Il nous recevra dans sa salle de cours de claquettes. Merci Martine Moni, Stéphane Poitvin, Emmanuel Dupuis, Lionel Quentin, Laurent Vallière. On vous souhaite un très bon dimanche.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.